MDM, MDM, votre radio locale.
Radio MDM et la Dérobade à la rubrique sport automobile et grand format, le Dakar en jaune et noir. Alors que l'épreuve 2022 vient de s'achever en Arabie Saoudite, deux motards montois se sont mis en tête de participer à la prochaine édition en 2023. Hugo Gomez, par ailleurs président du Stade Montois Motoclub, 32 ans, et Eric Bredel, 39 ans, lui aussi passionné de motocross, ont même déjà monté leur propre team, le Motodef Rider Team. En même temps, mieux vaut s'organiser à l'avance quand on doit boucler un budget de 140 000 euros pour le Dakar. C'est ce à quoi s'affairent les deux compères qui, avant d'être partenaires, étaient adversaire en course, une opposition bien vite balayée par une fascination commune pour le plus mythique des rallyes. Alors si Hugo a depuis tout petit été bercé au ronronnement des moteurs par son père, lui-même compétiteur en enduro, Eric Bredel s'est de son côté trouvé une idole en la personne du plus titré des pilotes de l'épreuve créé par Thierry Sabine.
Ben moi c'est Stéphane Peter-Hansel, voilà, que tout le monde connaît.
D'abord comme motard et après comme pilote
en moto, ouais. Donc moi c'était Peter-Hansel, et puis à l'époque quand j'étais apprenti mécanicien, mon patron faisait des rallyes, donc j'ai eu la chance de participer au rallye d'Espagne en tant que mécanicien à l'époque pour mon patron. Et depuis ça, j'ai toujours adoré les rallyes. Alors c'est vrai que je suivais pas autant que maintenant le rallye, parce que ben, on faisait plus du cross avec Hugo, donc c'était plus notre partie, on va dire. Et puis là, depuis vraiment 5-6 ans, je m'intéresse énormément au Dakar. Et puis, ben, on s'est dit avec Hugo, pourquoi pas. C'est vrai que pour nous, c'est un rêve, mais qui peut paraître inaccessible, effectivement.
C'est quand le moment où... C'est à l'apéro, c'est
quand vous dites. Alors il était 2h du matin.
Pas vraiment à l'apéro pour moi, mais non. C'était à la fin des journées où on regardait le récap du Dakar. Ouais. On s'appelait après, ou on s'envoyait des messages pour dire tiens, t'as vu lui un tel, ou un tel qui l'a fait en mal moto, des gars qu'on connaît un petit peu par rapport au cross aussi, et on s'est dit mais pourquoi pas nous en fait. Donc c'est vrai, c'est un rêve qui a un coût.
C'est en même temps, c'est les deux. C'est lequel des deux qui dit
peu les deux.
Je crois que c'est les deux en même temps. Hein.
On l'a regardé à la télé, et puis je crois que c'était en mars, avril. On s'est dit vas-y, on le fait.
C'est le bon moment.
Ouais. En fait, moi je me suis dit le roulage, pour moi ça me pose un peu pas trop de problèmes, on va dire, même si c'est une course qui est vraiment dure. Hein. Ce qui me fait plus peur, c'est la navigation. Et Hugo, lui, c'est l'inverse. La navigation, ça lui fait un peu moins peur.
Ouais.
Les dunes, ça lui fait peur.
Ça se complète.
Voilà, donc on s'est dit, mais voilà, à deux, on devrait faire quelque chose et on essaiera d'arriver à l'arrivée du Dakar en 2023. Quoi.
À deux et même à huit, hein, c'est le staff que vous envisagez, donc avec vous, les deux pilotes. Pour définir le staff.
Quand on a décidé de monter le projet, c'est quand même un projet à 140 000 euros.
Ouais.
On peut pas monter un projet comme ça à plus de 100 000 euros. Prix d'une maison à deux comme ça en mode vas-y on y va. Ouais. Alors je me suis dit faut quand même se structurer pour que ça soit crédible déjà auprès des partenaires parce qu'on compte essentiellement sur ça pour le financement et même pour nous pour qu'on soit bien quoi, pas qu'on arrive à l'arrache avant de partir etc. Ouais. Donc en fait on est deux pilotes, on aura chacun un mécano.
Ouais.
Enfin, la première fois je pense que c'est bien de le faire avec des mécanos. Je pense que ça facilite la vie.
Je pense aussi que c'est mieux, mais voilà. Le truc, c'était de se dire on va investir personnellement du temps, de l'argent, mais c'est le soir, il faut rentrer, faire sa mécanique, faire tout ce qu'il y a à côté. Quand on a une assistance, ça permet un peu d'arriver tranquille, de se reposer, de récupérer de sa journée.
Ouais.
Et de pas se préoccuper de la mécanique, de monter ses pneus, de faire sa vidange et de faire la petite mécanique qu'il pourrait y avoir sans avoir de chute. Donc voilà, au final, on s'est dit on va pas vivre le Dakar comme on devrait. Donc autant partir avec une assistance et au moins on pourra se reposer sur nos mécanos. Quoi.
Ouais. Voilà. Alors reposer, tout évidemment, évidemment relatif, parce qu'on parle d'un staff de 8 personnes. Le vainqueur par exemple de cette année, il avait combien de personnes? Ils sont, on va dire 8.
À mon avis, ils sont 10. Hein.
Ouais, facile.
Je pense.
Hein. Facile. Ah ouais. Il doit y avoir des diététiciens au milieu. Enfin parce qu'il y a des choses en amont, ça va se préparer, ça on va y venir.
Après, il y a aussi la préparation en amont, donc on a pris deux coachs.
Ouais.
Un physique et un technique.
Ouais, David Garcia qui est préparateur physique, qui nous a concocté un programme physique où on change tous les 5 semaines. en fonction de l'évolution.
D'accord.
Donc voilà, c'est du
fond. À base de quoi, ouais,
du fond. C'est du cardio, du vélo, beaucoup de vélo, et puis après du renforcement musculaire, et puis des longues sorties moto.
D'accord.
Ouais, c'est essentiellement ça.
On va y venir sur l'entraînement. Je ne peux pas évidemment parler du nerf de la guerre. 140 000 euros, clairement. À quelle porte vous allez taper? Comment comptez-vous vous y prendre pour boucler le budget?
Il faut aller voir des entreprises qui sont susceptibles d'être intéressées par un tel projet. Donc, on a déjà un petit réseau, nous, autour de nous.
J'imagine que ce n'est pas la première.
Voilà.
Vous avez déjà commencé.
On a un petit peu de réseau.
Ce n'est pas une bouteille à la mer. Vous avez
ça.
Déjà.
C'est ça. Après, il y a une partie quand même où il va falloir aller ramer et chercher. Donc, pour ça, je sais qu'aujourd'hui, on ne va pas chercher des sous. On va vendre une prestation marketing auprès des entreprises. C'est-à-dire que. On va pas juste aller pour dire donner deux sous, c'est cool, on va faire le Dakar. Voilà.
Ouais.
On va leur vendre vraiment une prestation.
Sur la moto.
Exactement. Il faut vendre des prestations, aller chez les partenaires, faire un vrai suivi toute l'année avant le Dakar. Et après aussi, faire des soirées où les partenaires vont se réunir entre eux. Et du coup, ça va créer du réseau entre eux et peut-être même apporter de nouvelles clients les uns les autres. Faire tout ce qui doit se faire maintenant dans n'importe quelle association ou n'importe quel sport où on cherche du partenariat. Les mécènes, c'est très rare. Et les entreprises qui disent « tiens, je donne parce que c'est cool », c'est de plus en plus rare, encore plus aujourd'hui.
Ouais.
Donc, il faut vraiment qu'il y ait un apport de notre part aussi. C'est-à-dire que c'est un échange donnant-donnant. C'est très important de pouvoir... même moi, j'aurais du mal à aller chercher de l'argent à quelqu'un en me disant « il va me donner 10 000 euros et puis en échange, bon, il aura 2-3 trucs, il sera content ». Non, il faut qu'il y ait vraiment un vrai échange. Il faut qu'il ait aussi à gagner. Donc ça, c'est notre rôle aujourd'hui, il va falloir qu'on s'y attache. On a fait une brochure qui fait une douzaine de pages où dessus on présente tous les chiffres du Dakar, qu'est-ce que c'est le Dakar, comment on peut, quelles sont les contreparties qu'on peut amener à un partenariat. Donc voilà, plein de choses sont possibles. Donc on commence à bosser un peu sur les réseaux parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup les réseaux. Et après voilà, proposer des prestations qui changent un peu.
Ouais.
Comme je suis éducateur sportif, je peux aussi proposer des prestations moto chez les clients, à leurs partenaires, à leurs clients, à leurs employés, faire des sorties, comme on dit maintenant. Maintenant, de cohésion, etc.
Ouais.
Il y a plein de choses à faire. Donc voilà, on propose plein de choses. Et je pense que c'est comme ça qu'on a le plus de chances d'y arriver, en tout cas.
Hugo Gomez et Eric Bredel, sauf erreur, donc les deux premiers Montois à participer en deux roues au plus fascinant des rallyes où en deux semaines, les légendes se construisent parfois dans la douleur et l'épuisement. Alors, à quoi peut ressembler d'ailleurs une journée type pour un motard du Dakar?
Une journée type, c'est lever à 4h du matin, petit-déj et départ pour la liaison vers les 6h30, je crois, quelque chose comme ça, pour arriver à la spéciale, une spéciale qui fait en moyenne entre 200 et 250 km. Et après, la liaison pour rentrer au bivouac. Donc, c'est une journée qui commence assez tôt.
Ouais.
Et quand on a de la chance, qui peut finir tôt. Mais généralement, ça finit tard.
Tôt, tout est relatif. Il ne faut pas qu'il y ait de casse. Alors, juste les mécanos, comment ça fonctionne? Les mécanos, quand ça casse, ils sont où pendant ce temps-là?
Les mécanos ont un tracé annexe
pour
rejoindre justement le bivouac. Parce qu'ils n'ont pas toujours les véhicules vraiment adaptés pour emprunter les pistes que nous, on emprunte. Donc, ils nous attendent au bivouac. De toute façon, nous, on a nos téléphones sur nous. Donc, s'il nous arrive quoi que ce soit, on peut toujours les appeler, les prévenir qu'on a éventuellement cassé telle ou telle pièce qu'ils peuvent comme déjà préparer de leur côté. Et après, eux, ils ont, en moyenne, 6 heures ou 5 heures de route pour rejoindre le bivouac. Nous, c'est plus, 8 heures par jour de moto.
Ouais. La moto en question, on parlait de l'engin pour la présenter.
Ouais.
Il y a deux types de motos. Donc il y a la vraie moto de rallye qui est déjà prête à utiliser, c'est limite la moto de Sunderland qu'a gagné cette année, avec juste quelques petites modifications en termes de suspension. Mais pour nous, c'est un gros budget, cette moto de rallye, donc on est plus parti sur une moto enduro qu'on va équiper en rallye, ce qui sera quand même beaucoup moins coûteux. Et puis pour la revente aussi, c'est une moto qui est peut-être un peu plus facile à revendre que la moto de rallye, donc... On a des motos qui vont arriver là prochainement et où on va avoir beaucoup de préparation de montage autour d'instruments, tout ce qui est navigation, les gros réservoirs additionnels. Et puis après, rouler avec les motos pour voir si on n'a pas de soucis de câbles qui pourraient frotter quelque part. Donc tout ça, c'est des choses qu'on doit valider avant le départ. Et on aura un rallye qualificatif. Parce qu'il faut savoir que le Dakar, on doit terminer un rallye qualificatif avant.
D'accord.
Nous, on a prévu de faire l'Andalousie au mois de juin, mais j'ai appris que l'Andalousie ne serait pas qualificatif.
D'accord.
Pour le Dakar.
Ça fera une petite sortie.
Voilà. Donc, pour nous, le vrai test, hein, ça sera le Maroc.
D'accord.
Au mois d'octobre prochain. Ouais. Et voilà, il faut qu'on termine absolument ce rallye pour pouvoir participer au Dakar.
D'accord. Donc, ça fait beaucoup de si, l'air
de rien. Ouais, ça fait beaucoup de si, ouais.
Prendre le départ le 1er janvier. Il y a cette ambition de pouvoir partir. Mais une ambition, c'est vraiment de pouvoir le boucler, de finir. Il n'y a pas de. Cherche pas le.
Non, nous, il n'y a pas de résultat pour le moment, c'est de terminer le Dakar, c'est déjà une victoire de le terminer. Donc, après, si on peut avoir un classement au Moto 2 ou quelque chose comme ça, bon, bah, c'est toujours agréable. Mmh. Mais déjà, de le terminer, ça sera déjà beau parce que, on n'a pas une grosse expérience tous les deux du rallye. Donc, terminer un rallye comme le Dakar, c'est une victoire.
Tout se passe bien, surtout.
Oui.
C'est déjà très bien.
Oui, alors justement, dans le tout se passe bien, de par le passé, il y a pu y avoir malheureusement des drames. Là, on a vu la piste terroriste qui a été envisagée en Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'ils en disent, vos proches, de vous lancer dans une aventure humaine, mais avec des dangers?
Je pense que c'est tellement évident qu'en fait, ils disent rien.
Ouais.
Moi, en plus, j'ai une philosophie de vie... Ce qui doit arriver arrivera de toute façon.
Ouais.
J'ai envie de vivre vraiment mes rêves. Je le vis au quotidien. Aujourd'hui, si j'ai lancé ma boîte, si je me suis lancé il y a un an et demi, avec des risques derrière aussi, même si ce n'est pas le risque de la vie non plus, hein, je ne vais pas mourir parce que j'ai plus ma boîte. Mais parce qu'il faut le faire. Il faut faire ce qu'on aime de toute façon. Si ça n'arrivera pas là-bas, ça arrivera ici. Enfin, je ne me pose pas trop de questions. Je fais confiance à l'organisation. Étant moi-même organisateur à mon tout petit niveau de petites courses régionales, je sais déjà tout ce qu'on nous impose au niveau sécurité, etc. Je me dis qu'un événement comme ça, c'est vraiment... voilà. Après, si ça doit arriver, ça arrivera de toute façon.
Si un drame arrive, c'est pas...
C'est comme ça. Je vais vivre le truc. Si on nous dit que c'est en Arabie Saoudite, j'irai. Si c'est en Argentine, j'irai. Si c'est en Roumanie, comme il y a quelques années, ça me poserait un peu plus de problèmes parce que ça m'embêterait d'avoir investi autant pour aller en Roumanie, mais bon.
Voilà. Très beau paysage en Roumanie, au niveau du mercure, c'est pas tout à fait pareil.
C'est pas les dunes, quoi.
Voilà. Oui, alors parce que ce qu'il faut préciser, c'est qu'on sait pour l'instant qu'on n'est pas la destination de l'édition 2023.
Je ne sais pas s'ils ont encore annoncé officiellement.
Pour le moment, non.
Je pense que ça va être Arabie Saoudite, mais bon.
Ça fait l'Arabie Saoudite, c'est depuis 2016, je crois.
Oui, ça fait quelques années, ouais.
Après, je sais pas moi, l'Argentine, ça me plaît aussi.
Ouais, la pampa.
Peu importe, après...
Je parle espagnol, donc c'est bon.
Ouais.
Voilà, après, moi, pour ma part, moi, c'est ma femme qui est un peu plus réticente, même si elle me suit à fond dans ce projet. Elle est investie à 200% avec moi. Il y a quand même le risque de la chute, de se blesser, de se faire mal. On va quand même, on prend des... Alors, pour les top pilotes, c'est...
C'est des fous.
Des pointes à 180 km/h. Mmh. Donc voilà, dans des dunes, aller aussi vite et en même temps naviguer, c'est ce qui est très dur. Bon, nous, je pense que si on arrive à 135, ça sera déjà beau. Peut-être un peu plus sur des parties dégagées, mais voilà, moi, le but, c'est de ne pas prendre de risques, même s'il y en a, mais c'est d'essayer de calculer le risque et puis de faire attention et de rentrer entier, quoi. Voilà,
de toute façon, elle vous dit, si je t'empêche d'y aller, enfin, ça ne va pas être possible, tu seras insupportable. Donc,
puis après, quand
autant divorcer tout de suite.
Quand j'ai quelque chose dans la tête, généralement, j'y vais. Et... Bon, après, voilà, assez qu'on fait les choses derrière pour, on s'entraîne physiquement. Voilà, sur la moto, pareil. Donc, on essaye de minimiser les risques, même s'il y en a sur une course comme ça, quoi.
C'est une année sabbatique déjà, vous prenez quasiment, parce qu'il y a toute la préparation, il y a les quêtes de sponsors, de partenaires. Enfin, comment on fait pour jongler le professionnel et la préparation, parce qu'il y a la préparation physique qui est énorme.
C'est dur.
On ne prendra pas d'année sabbatique, ou alors le banquier ne va pas être content. Mais on a la chance d'être on a la chance d'être tous les deux à notre compte, d'avoir notre entreprise, donc ça laisse... entre guillemets, de la liberté. Par exemple, aujourd'hui, on devrait être en train de travailler et on est là avec toi. Donc, c'est une liberté, c'est une chance de pouvoir le faire comme ça parce que j'imagine, j'ai été salarié il y a encore quelques temps, donc on est coincé, quoi.
Ouais.
Là, on a de la liberté quand même de prendre des rendez-vous en semaine, de pouvoir se déplacer, de s'organiser à l'avance. C'est faisable en continuant le travail, enfin, pour ma part, en tout cas, sans souci.
Comment on peut faire pour vous soutenir, en tout cas? On passe par les réseaux sociaux, celles et ceux qui vont nous écouter aujourd'hui.
C'est de parler de nous, déjà.
Parler de vous,
c'est
déjà.
C'est la communication. Je pense que si on va avoir des partenaires en disant « suivez-nous » et qu'on n'a rien fait avant, il va se poser des questions et c'est normal. Personne n'a entendu parler de nous, donc on veut déjà que le projet prenne, que des gens peut-être se reconnaissent derrière ce projet et puissent le vivre un peu par procuration entre guillemets, si voilà. Et oui, la communication surtout, c'est ça qui va nous aider le plus, je pense.
Eh ben, en tout cas, merci d'être passé par chez nous. Motodef Rider Team, déjà d'une part, sur Facebook, par exemple, pour aller jeter un petit coup d'œil.
Oui, Motodef Rider Team sur Facebook. On a commencé, ça se finit aujourd'hui. On a posté tous les lundis une présentation de chaque membre de l'équipe. Donc, on a parlé du coach David. Ouais. Je voudrais parler aussi du coach technique, Johan Marais, qui est un ami aussi et qui roule aussi, un ancien pilote au niveau, qui roule pour Eric aussi maintenant avec ses motos. Donc, lui, il va nous coacher tout ce qui est technique, position, pilotage pur. Et puis, il y a sa femme Caro qui va nous faire tout l'administratif.
Ouais.
Parce que ça va être assez lourd.
Ouais, parce que c'est individuel quand vous serez dessus à bouffer du sable, mais il y a
toute l'équipe derrière.
Ouais, voilà. Tout le monde,
Et Magali, qui est la trésorière. Qui a le gros poids sur les épaules de gérer tout cet argent que j'espère va arriver.
Écoutez, si on a pu apporter entre guillemets nos pièces ou nos pierres à l'édifice, on en sera ravis. On vous souhaite en tout cas bonne aventure. On va suivre forcément ça de très près.
J'espère, ça serait sympa de suivre et de faire un petit suivi.
Évidemment.
Évidemment que Radio MDM sera présent aux différents bivouacs du Dakar 2023 pour prendre des nouvelles des deux pilotes, donc Hugo Gomez et Eric Brodel, avant et pendant la course. Pour plus d'infos sur l'écurie montoise, la page Facebook Motodef Rider Team Dakar. Comparing scenes, it's like comparing means. You don't know how it feels, it's not under your skin. Direk dalje ne ta jo diye na, direk diva ne ta jo diye na, jo diye na, jo diye na. You follow the blind, 'cause you might fall in that well. Dark and deep like your mind, its other side is hell. Direk dalje ne ta jo diye na, direk diva ne ta jo diye na, direk dalje ne ta jo diye na, direk diva ne ta jo diye na, jo diye na. Something wrong to you, and I ask for mercy all the time. It depends on what I have been through. Still you say my burden is not mine. Sure did something wrong to you, and I ask for mercy all the time. It depends on what I have been through. Still you say my burden is not mine. This song is for all those religious freaks that turn their deeds into points, like they think it's some sort of game to get to heaven. Truth is, in a split second you can get to heaven, in a split second it can be gone. And you might be a Buddhist, Christian or Muslim, whatever, the religious mind should always be humble. God knows everything, you don't know shit. I sure did something wrong to you, and I ask for mercy all the time. Depends on what I have been through. Still you say my burden is not my hand. Sure did something wrong to you, and I ask for mercy all the time. It depends on what I have been through, but you say my burden is not my hand.
C'est sans filet, hein, c'est évident.
Salut à toutes et à tous.
De la sueur, des larmes, des liasses d'argent et peut-être même des produits dopants, c'est la rubrique sport.
Terrible del mundo.
Appelez-moi le barde, qu'on écoute un peu de musique.
Et des cuivres qui rutilent.
Radio MDM, la meilleure des radios.
N'oubliez jamais
ça. J'imagine quand même que nous n'avons parlé d'aucun film.